Bonsoir.
Bonsoir à tous. J'ai une petite question qui sort un petit peu du contexte. Je suis maniaco-dépressif, donc suivi médicalement, et je me suis rendu compte que j'avais des TOC. Et je voulais savoir si les TOC pouvaient venir des médicaments, ou pas du tout. Ou ça peut venir de la maladie ou des médicaments.
Non, ça ne vient pas des médicaments. Hein. Les TOC peuvent être en rapport avec une recrudescence de l'anxiété. C'est fréquemment associé aux troubles maniaco-dépressifs. Quand je dis fréquemment associé, dans 20% des cas, on retrouve cette comorbidité, le fait de présenter simultanément deux types de troubles. Et c'est vrai que ça peut relever d'une thérapeutique particulière, en sachant que certains antidépresseurs qu'on utilise pour traiter les TOC peuvent aggraver le trouble maniaco-dépressif en favorisant des montées. Mais la thérapie comportementale a sa place.
Donc ça n'a rien à voir avec les médicaments, en fait.
Non, ça n'a rien à voir avec les médicaments.
D'accord. Merci beaucoup.
Oui, je voulais savoir si vous pensez que c'est plus difficile d'avoir un conjoint qui a un problème de dépression ou de troubles maniaco-dépressifs, ou auquel cas on cumule les difficultés, mais il est plus capable de vous comprendre. Ou est-ce que c'est plus difficile d'avoir un conjoint pour qui ce problème est complètement étranger, auquel cas comment va-t-il faire pour comprendre ce qu'on peut vivre, et est-ce que la distance est trop grande?
Vous allez repréciser votre question parce que je n'ai pas très bien compris.
Dans un couple, oui. Le trouble bipolaire pose un problème, le problème de la compréhension. Soit on comprend l'autre et on a peur d'être entraîné dans la spirale.
Oui.
Soit on n'arrive pas à le comprendre, on n'est pas entraîné dans la spirale, mais on n'arrive plus à communiquer. Comment construire un couple? Comment demander à l'autre de vous comprendre tout en le protégeant de ce qu'on vit? Comment peut-il comprendre sans être menacé lui-même?
Mais ça, c'est une question assez délicate, hein, parce que là, vous faites référence à un couple où il y a un seul maniaco-dépressif. Hein.
Je pose la question, voilà, je pose la question, c'est-à-dire que je me dis finalement, si on est tous les deux dans ce cas-là, on peut se comprendre, mais quand il y en a un qui va mal, il entraîne l'autre, on n'en sort plus, et donc on a besoin qu'il y en ait au moins un qui tienne la route, c'est comme deux béquilles, bon. Mais si on est avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes troubles, il ne comprend rien, il a beau faire l'effort, il ne comprend pas, parce que c'est... Ce qui aide dans nos troubles, je pense que c'est la compassion, mais la compassion, elle a des limites, parce que la compassion, elle vous entraîne. Donc, je me disais, en vous écoutant, je me disais, bon, alors, d'après ce qu'il me dit, finalement, on peut s'entraider si on vit un peu la même chose, mais si on ne vit pas du tout la même chose, on n'arrive pas à communiquer. Et bon, alors, moi, je pense que je suis avec quelqu'un qui a le même genre de trouble, sauf que je ne pense pas qu'il est capable de l'admettre. La difficulté, c'est de ne pas se... C'est parce que c'est quelqu'un qui parle pas facilement, donc c'est trop difficile. Par contre, je pense que du coup, il a peur, donc je peux pas lui faire partager ce genre de choses. Et inversement, je me disais que le reste de ma famille a pas du tout ce genre de trouble, donc ils ont aucune idée de ce que je vis. Donc de même, je veux pas leur en parler parce que c'est impossible à imaginer pour eux. C'est trop difficile comme effort. C'est un effort d'imagination énorme. Ils ne peuvent pas.
Bon, alors. Je vais concernant la deuxième situation, je ne vais pas partager votre avis parce que je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire et que la sensibilisation de l'entourage, elle est possible. Elle est possible, ça prend du temps. C'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais été déprimé ne peut pas comprendre ce qu'est la dépression. Bon. C'est une évidence, hein, c'est-à-dire qu'il faut être passé par là pour savoir ce qu'est la dépression. Bon. Les seules personnes éventuellement qui peuvent avoir une vision de ce qu'est la dépression, c'est le psychiatre, le psychologue, enfin ceux qui travaillent dans ce milieu. Mais le ressenti, il faut avoir vécu la dépression pour comprendre dans quelle situation on peut se trouver et quelle détresse on peut ressentir au cours d'une phase dépressive. Néanmoins, donc, l'information, elle aide, et donc le fait d'expliquer, eh bien, ça aboutit à des éléments quand même qui sont positifs. au niveau de cette acceptation, au niveau de la compréhension, au niveau de respect de l'autre. Ça, c'est je pense qu'on le voit au niveau des familles, et parfois c'est plus difficile, ça dépend du quotient intellectuel de chacun, mais c'est quelque chose qui ne peut se faire de toute façon qu'en présence de la personne, parce qu'il faut que la personne soit là aussi, lorsqu'on reçoit la famille, pour travailler sur certains éléments et faire comprendre à quoi ça correspond. Donc ça aboutit, on est dans des thérapies systémiques, familiales, ou des thérapies de type psychoéducatif où on donne cette information. Donc ça aboutit à quelque chose. Alors, premier cas de figure, je suis maniaco-dépressif, il est maniaco-dépressif ou elle est maniaco-dépressif. Alors, il est certain que c'est quand même un cas de figure qui est assez rare. C'est-à-dire que dans ma pratique, je rencontre peu de couples de maniaco-dépressifs. En revanche, je rencontre des personnes qui ont un tempérament particulier, qui est plutôt hyper timide ou c'est dynamique, affectif, et qui sont avec des maniaco-dépressifs. Parce que là, il y a quelque chose qui, ça ne se ressemble pas vraiment, mais là, il y a une compréhension. Hein, c'est-à-dire que des personnes qui vont quand même fonctionner à l'affect, et il y a une certaine originalité dans le mode de vie, parce que je n'imagine pas, par exemple, un maniaco-dépressif capable de tous les excès, vivant avec ses engouements, avec ce côté très très passionnel, vivant avec quelqu'un qui va passer 24 heures par jour à vérifier si son gaz est fermé. Et si, donc, c'est des cas de figure exceptionnels. C'est-à-dire qu'un grand obsessionnel complètement étriqué qui ne peut pas vivre parce que sa maladie l'empêche de vivre, parce qu'il est dans la distance, pourra pas vivre avec quelqu'un qui est dans l'explosion en permanence et qui est hyperactif. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la maîtrise des sentiments, la distanciation et une certaine froideur, et puis d'un autre côté, il y a au contraire l'excès. En revanche, ce qu'on voit dans des couples de maniaco-dépressifs, c'est que il y a quelque chose le conjoint a été séduit. Il a été séduit par quoi ? Il a été séduit par l'originalité, la vivacité d'esprit, la sensibilité, l'affectivité. C'est quelque chose aussi qui probablement le renvoie à lui. Donc il y a très souvent une notion de tempérament, mais c'est sûr que deux maniaco-dépressifs ensemble, ça peut être explosif, parce que vous imaginez deux phases maniaques en même temps, c'est abominable. D'abord, vous allez vous désargenter en l'espace de très très peu de temps. Et puis, la dépression, alors là, ça doit être abominable, parce que quand vous êtes ensemble déprimés, ben, plus rien n'est fait, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Et s'il y en a un qui est maniaque et l'autre qui est déprimé, ça va être pire encore, parce que le maniaque a quand même un seuil de tolérance qui est très, très, très diminué, et qui va être hyper réactif et agressif et irritable. Donc là aussi, ça va faire des explosions. Donc, en règle générale, j'ai pas d'exemple. En revanche, j'ai des exemples de femmes qui ont été mariées à un maniaco-dépressif, une femme en particulier à laquelle je pense, qui était mariée à un maniaco-dépressif, je vous en avais parlé, qui m'a conduit en consultation son maniaco-dépressif, qui a été guéri, stabilisé, qui a divorcé, qui s'est remarié avec un autre maniaco-dépressif, et qu'elle me conduit. Bon. Donc là, il y a quelque chose d'attirant. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est qu'au niveau de l'affectivité, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire qui fait que on va vers le maniaco-dépressif. Et la difficulté, d'ailleurs, qu'on peut avoir, nous, en tant que médecins, c'est qu'on ne peut pas conserver une neutralité bienveillante par rapport à un patient maniaco-dépressif. C'est impossible. C'est véritablement impossible. C'est impossible pour deux choses. Premièrement, parce que la nature de la relation fait que on est obligé de s'impliquer et de s'investir. Deuxièmement, la personne est tellement sympathique et fonctionne tellement à l'affect qu'il y a des liens qui se créent. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on tisse des liens qui sont quasiment du registre amical, c'est-à-dire qu'on a, on a, et ce n'est pas antithérapeutique, ça n'a jamais été antithérapeutique d'aimer son patient, mais il est certain que son patient, on va l'aimer d'une certaine manière, on va y être très attaché, on va avoir un seuil de tolérance aussi qui va s'augmenter parce que on accepte beaucoup d'un maniaco-dépressif et on comprend aussi son mode de fonctionnement, mais il y a quelque chose qui est très très attachant. Mais ça ne répond pas complètement à votre question. Il n'empêche que deux maniacos vrais, bipolaires de type 1, j'ai du mal à l'imaginer, sauf une explosion. Et sans ça, donc, le conjoint, s'il n'est pas trop amidonné, il est accessible à cette information et à comprendre.
Bonjour Sophie. En fait, j'ai envie d'apporter mon témoignage. Parce que donc, je suis maniaco-dépressive, je crois reconnaître type 2. Je crois reconnaître aussi une forme relativement atténuée, parce que je ne pense pas avoir fait réellement de crise maniaque. Mais en fait, avant de parler de l'acceptation, mon chemin, ça a été vraiment la reconnaissance, qui a été très, très, très longue et très, très douloureuse. Parce qu'en fait, j'ai fait une première dépression à l'âge de 28 ans. Je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai eu comme un éclair dans la colonne vertébrale. Et à ce moment-là, je jouais, je suis comédienne, je jouais au café-théâtre. Et c'était impossible pour moi. Je ne pouvais que faire une chose, c'est tendre ma main et appeler ma mère au secours. Et après, mon père est maniaco-dépressif, mais ça, c'est pas dit dans la famille. Il a des tendances un peu cyclothymiques, mais bon, de toute façon, maintenant, moi, je sais qu'il est maniaco-dépressif. Lui ne veut pas le reconnaître. Moi, j'ai toujours eu une peur immense. Pour moi, c'est son fantôme. Je ne veux pas lui ressembler, je ne veux pas lui ressembler, je ne veux pas lui ressembler. Je suis son portrait craché. La grande difficulté, ça a été donc... J'ai eu la chance d'entamer une psychothérapie tout de suite, mais... En 10 ans de psychothérapie, je veux dire, on me trouvait dans une forme étincelante ou alors complètement en bas. Et c'était donc, quand j'étais en bas, on travaillait sur des problèmes existentiels. Alors certes, on a tous des problèmes existentiels, mais moi j'ai mis très 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 longtemps, il a fallu que je tombe très 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 malade, jusqu'à crier à la mort, pour qu'on m'emmène voir un médecin qui, aux États-Unis donc... grâce à une amie qui m'a emmenée, qui a assisté, a dit à le médecin lui a demandé est-ce qu'elle est aussi en phase ascendante, est-ce qu'elle a des expressions un peu en haut quoi, et grâce à cette amie en fait j'ai été diagnostiquée maniaco-dépressive. Bon, je dois dire que l'acceptation n'a pas du tout été évidente parce que effectivement rejet des médicaments immédiatement. C'était du Deroxate à l'époque. Et en fait, j'ai trouvé hyper difficile ce terme de « on est des... c'est quoi le truc horrible hein ?» Non, pas ça va. L'autre, c'est psychose maniaco-dépressive. Donc là, PMD, quand vous dites que vous êtes PMD, moi je me dis « bon, d'accord, je suis vraiment très 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 mal barré ». Et en fait, je dois dire que c'est le travail que j'ai fait sur moi, et grâce, je dirais grâce à moi, hein, à ma ténacité et à l'envie d'accepter le traitement médicamenteux, j'ai fait des bons extraordinaires. Et je voulais vous remercier parce que c'est vrai que l'acceptation, c'est énormissime. Alors là, je dis amen. L'acceptation, c'est vrai, c'est énormissime. Et depuis que j'ai accepté, j'ai l'impression d'être vraiment, en tout cas, en voie de bonne santé, on va dire. Simplement, je voulais dire aussi que par rapport au plaisir, je trouve que c'est très, 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 très important de se faire plaisir, effectivement, de se gratifier, de faire des choses qui... Enfin, moi, j'écoute beaucoup mon instinct, et dès que je sens que mon baromètre, c'est la joie, j'y vais. Maintenant, la souffrance, j'y vais plus. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve que c'est vraiment un apprentissage, que ça prend des années, que la psychothérapie, enfin, si on tombe sur le bon, il n'y a pas de raison d'ailleurs de ne pas tomber sur le bon, parce qu'il y en a plein de merveilleux, c'est vraiment une relation, et je pense que c'est la relation vraiment qui guérit. Donc la relation, et moi, m'a vraiment particulièrement aidée. Aujourd'hui, je mène une vie professionnelle, je mène une vie affective. C'est vrai que, heureusement, j'ai quelqu'un qui dit « Moi, je t'aime avec tes excès ». Bon, ben voilà, je serai toujours excessive, vous avez sans doute entendu mon rire. Je ris comme ça depuis que je suis petite, et c'est vrai qu'il y a des gens qui supportent pas mon rire. J'y peux rien, je ris comme ça, ça me sort, et puis voilà, c'est comme ça. Et la libido, elle va très bien, merci. Non, mais en fait, simplement, j'avais envie de témoigner que ça peut vraiment aller bien, quoi. Ça peut vraiment aller bien, et que l'acceptation, oui, et voilà, et merci. Et voilà.
Non, merci de ce témoignage, d'autant plus qu'on n'est pas compère ni consoeur, enfin bon, mais c'est voilà, c'était improvisé.
Attendez, je voudrais vous dire un grand merci particulier, parce que quand je suis venue vous voir et que vous m'avez dit que vous aimiez les bip-bip, enfin moi je les appelle comme ça maintenant, vous aimiez les bipolaires, je pense que ça a été un grand jour dans ma vie. Parce que vraiment, être aimable, alors que quelle honte j'ai pu éprouver. J'ai 42 ans, ça a commencé à l'âge de 28 ans. Donc, et ça fait seulement 2 ans que je prends un traitement. Et toute seule, j'étais, mais la honte, la culpabilité, enfin. Et donc, d'être aimable, c'est extraordinaire, quoi. Donc, aimons-nous, nous sommes des gens effectivement merveilleux.
Mais non, mais on vous aime beaucoup.
Mais le bip-bip, c'est très bien. Bip-bip, c'est très très bien. C'est parfait. Ça, on va le ressortir. Hein. On va vous le voler. Hein.
Non. Bip-bip. Oui, je m'appelle Nathalie. Et, bon, moi, je suis pour revenir au conjoint. Je suis une conjointe. C'est vrai que j'ai été vraiment séduite par mon partenaire il y a très longtemps, parce qu'il était drôle, parce que je suis persuadée que le jour où on ne sera plus ensemble, je rencontrerai un autre bipolaire. C'est évident. Mais le problème, c'est que je vous trouve tous, les bipolaires ici, extrêmement sympathiques par rapport à mon conjoint, ce qu'il est devenu. Je trouve que finalement il est bipolaire, mais là c'est une personnalité extrêmement tyrannique et paranoïaque, et les crises maniaques maintenant, je ne peux plus du tout l'aider, je ne peux plus pénétrer, et je ne sais pas comment on peut faire pour entrer dans l'univers de la parano. Après l'avoir soigné pendant 8 mois là, au cours d'une très 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 grande dépression, qui a été très très longue et très difficile, je me vois devenir l'ennemi. Il est en pleine crise maniaque, et je suis même accusée de vol. Il est dans une telle attitude, c'est le contraire. Autant il a eu besoin de moi pendant cette période, et à chaque fois il revient à 100 à l'heure, si on peut dire 100 à l'heure au moment de la dépression, mais autant dans les périodes maniaques, c'est l'indépendance. On devait se marier, et naturellement, comme il n'en est pas capable, vu son état psychologique, il a fallu qu'il me fasse passer même pour une voleuse, parce que j'ai, comme d'habitude, tenu tous les comptes, repris tout au moment de la dépression. Et là, je ne peux plus rentrer dans sa parano, et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, parce que ça dépasse la maniaco-dépression. Et quand on parle de personnalité, comme vous le faites très souvent, il y a un moment où on ne sait plus quoi faire, et la psychiatre, sa psychiatre, ne m'aide pas. J'ai perdu le contact. Voilà.
Alors, ça, ça, c'est aussi un témoignage. Je ne peux pas faire de commentaires parce que je ne connais pas la situation. Ce qu'on peut dire quand même, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les formes difficiles à traiter sont des formes dans lesquelles il y a très souvent un trouble de la personnalité associée. Et en particulier, lorsqu'il y a un fonctionnement de type paranoïaque, ça n'arrange rien. Un fonctionnement qui, bien sûr, est accentué lors des phases d'excitation maniaque. La seule chose qui permet de contrôler éventuellement la situation, c'est certains médicaments neuroleptiques qui permettent d'atténuer ce côté très interprétatif et tyrannique que peut avoir le paranoïaque. Mais c'est là où il faut prendre en considération cette notion de structure sous-jacente, parce que vous avez quelques patients maniaco-dépressifs qui sont difficiles à gérer du fait de ce fonctionnement. Ça, c'est une réalité.
Bonsoir, je m'appelle Ludovic. C'est pas vraiment la question, c'est seulement dire que j'ai une tante qui est bipolaire. Elle a marié, son mari est bipolaire aussi. Ils ont décidé d'avoir des enfants, ils ont deux petits-fils, et puis ils sont pas bipolaires, il va bien. Alors, seulement pour dire ça, que c'est possible. C'est mon accent ?
Non. C'est le risque de bipolarité ?
Mais ils sont pas bipolaires. Ils sont, alors, ils ont l'âge à peu près 30 ans maintenant.
Oui. Et attendez, j'ai pas très bien.
Non, c'est pas la question. C'est pour dire, commencement de le discours, c'était les enfants. Et...
qui ne sont pas bipolaires, oui. Bien sûr.
Mais pour deux personnes être bipolaires, c'est normalement un plus grand pourcentage de...
Quand il y a deux personnes, on a un risque, quand le mari, alors ce que je vous ai dit, hein, c'est que le mari et la femme sont rarement bipolaires en même temps. Hein, enfin, quand je dis en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même pathologie. Donc le risque va être beaucoup plus important pour les enfants, c'est-à-dire qu'il va être 30% à peu près. Hein. Mais c'est très compliqué parce que j'insiste aussi sur la notion d'hétérogénéité. Hein, c'est-à-dire que vous avez différents types de troubles bipolaires, et vous avez des troubles bipolaires qui peuvent avoir un déterminisme génétique en partie, et d'autres pour lesquels il n'y a aucun déterminisme génétique. Donc c'est ce qui fait la vulnérabilité, la prédisposition, c'est cette notion de gène de vulnérabilité. Hein. Mais lorsqu'il n'y a pas ces gènes de vulnérabilité, ou s'il y en a, très peu, bon, le risque il est faible, et à partir du moment où on a une hygiène de vie et on a une activité qui est je dirais assez linéaire, sans à-coups, eh bien ça limite considérablement ce risque.
Oui, merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des principes que vous respectez vous-même, mais je crois que c'est valable pour tout le monde, hein, les principes de vie que vous avez donnés. Mais je voudrais poser une question à propos... est-ce qu'il existe une étude qui aurait été faite sur les carences affectives qui peut y avoir au départ et qui peuvent provoquer un déséquilibre de l'estime de soi? Est-ce que ma question c'est ça. Dans quelle proportion, si on le sait, les carences affectives qui provoquent après des déséquilibres de ce que j'appelle de l'estime de soi, est-ce que c'est connu?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Merci.
Christophe André a publié pas mal de documents sur ce sujet. Si vous achetez Psychologie du bonheur, enfin le livre qui s'appelle Vivre heureux, ou si vous achetez l'estime de soi ou la peur des autres, vous aurez toutes les réponses à ces questions. Il est certain que les personnes qui très souvent ont un trouble de personnalité et qui présentent ce comportement soit un peu borderline, soit avec un fond dépressif, dysphorique, avec une réactivité anormale, avec un besoin de vivre quasiment sur l'autre, une demande affective très très importante, eh bien ces personnes, quand on reprend leur histoire, elles ont été confrontées à des situations de carence affective, de sévices et à des séparations précoces aussi. Et ça, c'est des éléments qu'on retrouve très très souvent quand on reprend un peu l'histoire. Et même des patients bipolaires, on retrouve aussi ces facteurs de fragilisation. Donc à la fois, ce qui concerne les troubles de personnalité et puis aussi ce type de troubles.
Oui, moi, j'ai trouvé tout ce que vous disiez là très intéressant concernant les petits groupes de travail. Mais je voulais savoir, enfin, les mesures psychoéducatives, c'est ça ? Je voulais savoir si c'était ouvert aussi aux personnes qui avaient des dépressions unipolaires.
Alors, non, ça n'est pas ouvert parce que là, on fonctionne avec les moyens du bord et puis on fait de la navigation à vue avec ce qu'on peut. Hein, mais bien sûr que c'est une indication. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est centré sur les troubles bipolaires, en sachant que ces mesures psychoéducatives, elles avaient d'abord été développées pour la schizophrénie, pour les patients atteints de troubles schizophréniques, mais c'est évident que ça s'applique aussi aux troubles unipolaires. Alors, pourquoi je ne vous en ai pas parlé ? Eh bien, tout simplement parce que ici, on travaille plus sur la bipolarité, parce qu'on essaye d'avoir des groupes homogènes, et donc s'il y a un unipolaire dans le lot, il va se sentir mal aimé, intrus, toi t'es UP, moi je suis BP, bip bip, et donc ça sera... Non, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que l'évolution est un petit peu différente. Cela dit, c'est mieux de travailler avec un groupe homogène, qu'il y ait plusieurs unipolaires ensemble, pour pouvoir avoir un ressenti partagé et qu'il y ait une réelle interactivité. Mmh. Et c'est vrai que celui qui n'a jamais été en phase maniaque, il peut pas percevoir ce qu'est la phase maniaque avec ce sentiment de toute puissance, de grandeur, d'être champion de France ou champion du monde, ça dépend de l'intensité de la symptomatologie maniaque.
Mais à ce moment-là, pour les unipolaires, alors qu'est-ce que vous conseillez ?
Pareil, c'est exactement la même chose, c'est le même principe. C'est le même principe. Il faut qu'on trouve les moyens de le faire, il faut qu'il y ait des personnes qui mettent ça en place, mais c'est quelque chose qui devrait être fait. Ouais. Malheureusement, c'est quand même une dépense d'énergie immense, c'est-à-dire que la dépense d'énergie, c'est pas à partir de nous, mais c'est qu'il faut déplacer des montagnes pour avoir des locaux, pour avoir un accord de l'administration, pour avoir du personnel. C'est très difficile à mettre en place. À partir du moment où on le met en place, la stratégie va être identique. La notion d'acceptation, de travailler sur les répercussions, il y a une chose que je n'ai pas abordée, mais que c'est une évidence, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait un épisode dépressif ou à chaque fois qu'on fait un épisode maniaque, on conserve des séquelles de cet épisode. Il faut travailler aussi, parce que là, il y a un travail de cicatrisation, d'aider à la personne à cicatriser, de ne pas conserver ces symptômes résiduels qui minent la vie. Et quand on a été déprimé, plus on est déprimé, plus on est fragilisé, plus on a le risque de faire des dépressions. Et je dirais que ces symptômes résiduels, ils restent collés parce que vous vivez en permanence avec cette mémoire de ne pas être à la hauteur et tout ça.
Donc si j'ai bien compris, ce qui se rapproche le plus pour les unipolaires, c'est un peu les thérapies comportementales.
Absolument.
Mais à ce moment-là, ça reste individuel, ça se fait pas en groupe.
Ça se fait en groupe aussi.
Ah bon ?
Ça se fait en groupe aussi.
D'accord. Merci.
Encore deux, trois questions ?
Oui, justement, ça tombe bien. J'en pose une et puis il y a deux personnes qui veulent en poser. Je suis bipolaire depuis longtemps et j'ai participé aux études de Marion Le Boyer il y a 5-6 ans sur la génétique. Et là, je fais un deuxième tour, donc je retourne là-bas, on va recommencer. Je ne suis pas du tout persuadé de la génétique. Et le jour où on me présente quelqu'un ou un arbre généalogique qui prouve réellement que ça vient de la génétique, j'aimerais bien en être informé, parce que je n'y crois pas.
Non, mais attendez, je pense qu'il faut être très, très prudent par rapport à la génétique. C'est-à-dire que vous avez des maladies comme la mucoviscidose, la myopathie de Duchenne ou la chorée d'Huntington qui sont des maladies génétiques. Et là, on retrouve sur l'arbre tous les niveaux. Hein, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les troubles bipolaires, on peut avoir des sauts. Et c'est une maladie, ce que je disais tout à l'heure, qui est multifactorielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gène. Il n'y a pas le gène de la maladie, c'est des gènes de vulnérabilité, et ce qui fait qu'il y a une prédisposition. Alors, par exemple, l'arbre généalogique, vous avez qu'à vous référer à Touch of Fire, l'ouvrage de Kate Jamison, et vous verrez l'arbre généalogique de Virginia Woolf. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de personnes qui sont atteintes. Et ça, il y a plusieurs arbres qui sont présentés. Et ça, nous, on le voit aussi. Mais ce qui est important, c'est de ne pas approcher cette maladie en se disant c'est une maladie génétique et je suis porteur du gène de la maladie. Ce sont des gènes de vulnérabilité, de fragilité, comme il y a des gènes, je le répète parce que c'est hyper important, comme il y a des gènes de fragilité à la tuberculose. Ici, présent, vous avez peut-être la moitié de la, de la salle qui présentera des gènes de vulnérabilité à la tuberculose et d'autres qui ne les auront pas. C'est-à-dire qu'il y aura la moitié de la salle qui pourra être contaminée et l'autre moitié qui ne sera pas contaminée. La même chose pour la grippe, la même chose pour le cannabis. Il y aura des personnes qui vont avoir des réactions anormales au cannabis et d'autres qui n'en auront pas. Et tout ça, c'est déterminé génétiquement, mais c'est des gènes de vulnérabilité qui font qu'il y a une fragilité plus importante.
Docteur Gay, excusez-moi. Alors, la 467 MZC75 Clio est menacée de fourrière. Vite, vite. Ensuite, il manque un sucrier au resto.
Je trouvais qu'elle parlait beaucoup, Juliette, là, ces derniers temps. Donc, à mon avis, elle est en train de faire son premier épisode d'excitation maniaque.
Bonsoir, docteur. Bonsoir, tout le monde. Je voulais faire un petit témoignage, surtout un remerciement pour ma femme. Je ne sais pas si elle est dans la salle ou pas, mais je suis bipolaire. Il a eu de m'appuyer beaucoup de temps, de me soutenir et d'être avec moi tout le temps. Surtout quand je suis dans mes phases dépressives, voilà. Il me vient chercher au boulot, il m'amène dans les parcs pour se promener avec moi. On passe longtemps de conversations ensemble, ils s'aiment beaucoup. C'est pour ça que je veux jeter de florelles. Et aussi, je suis dans une étape hyponymique, je suis dans une étape maniaque. Elle me soutient beaucoup. Elle garde sa position entière vers moi. Je vais vous dire que vous avez parlé de quelqu'un qui achète une moto chaque mois. J'achetais un avion par mois. Et bon, ce n'est pas un avion de passagers, je pratique de l'aéromodélisme, mais ça m'a causé beaucoup de problèmes parce qu'une fois, ma femme m'a fait asseoir autour de la table. Il m'a dit, Joachim, ça ne peut pas continuer comme ça parce que cette mois, on arrivait à un numéro rouge. On avait des numéros rouges, 86 000 francs. Et alors, on a eu de prendre des décisions. Une de ces décisions, c'est de prendre la carte bleue, de ne pas la faire sortir. Alors, elle me donnait de l'argent de poche que je pouvais avoir avec moi. Et si je dépassais cet argent de poche, alors on discutait avec elle et on établit cette espèce de communication. Et comme ça, on a pu continuer à l'avance. Alors, j'ai mes périodes de dépression, de maniaque, mais c'est grâce à ma femme que je peux soutenir et je peux continuer à l'avance. Merci.
Bon, voilà. Je crois que c'est à moi. Bon, voilà. Ça fait environ 10 ans que la maladie de ma fille s'est déclarée vraiment d'une façon très nette, qu'elle a eu plusieurs hospitalisations à Sainte-Anne, qu'elle est soignée par différents médecins très importants d'ici, et très souvent encore, elle a 31 ans maintenant, elle n'est pas bête du tout, mais elle fait le déni de la maladie en disant, il n'y a qu'en France et en Amérique qu'on met des appellations de ce genre sur certains traits de caractère. Elle adore les psychiatres parce que souvent elle les trouve extrêmement intelligents, mais elle ne peut pas les voir en tant que médecin. Bon, et en plus... Alors, quelquefois, elle tombe en dépression. Bon, elle a perdu son père il y a 3 ans. Elle n'a pas de frères et sœurs. On n'a plus de famille. Donc, elle est triste. Mais quand elle va bien, et c'est plus souvent, enfin, si on peut appeler ça bien, elle est constamment en état hypomaniaque. Parce qu'à la rigueur, elle ne veut prendre que du Cyprexa. Pas de régulateur d'humeur. Le Cyprexa, ça lui donne mal dans la tête. Le Cyprexa, ça l'ennuie, ça la fait beaucoup grossir. Alors, elle arrête de temps en temps, elle maigrit, hop, rechute. Vite, elle reprend le Cyprexa. Et grâce à ça, elle dit qu'elle peut écrire, lire, faire 3 facs en même temps, ce qu'elle fait la moitié du temps, se marier, avoir 3 enfants. Et je suis affolée parce que les médecins me disaient...
parce qu'elle a des copains, mais elle n'est pas encore mariée. Elle veut se marier, avoir au moins que 3 à 5 enfants. Elle dit, on est sur terre pour agir, et moi j'agirai. Toi, tu es déprimée perpétuelle. Donc, elle veut agir. Son père étant mort il y a 3 ans, il était artiste peintre, on a vendu son atelier. Elle a vendu, je ne me sentais pas le droit, c'est à elle. Et elle s'est acheté un appartement au Gobelin. Bon, peut-être qu'elle prendra un copain, une copine, mais a priori, elle doit y vivre seule. Moi, je suis affolée, je vis dans le 15e, parce qu'avant, ses médecins m'ont toujours répété, et je le fais encore, donnez-lui ses médicaments, occupez-vous d'elle. C'est vrai que quand elle est en grande crise maniaque, elle vous a téléphoné une fois, elle perd complètement la tête, parle de philosophie n'importe comment, et n'importe quoi, y compris aux policiers, et de Nietzsche, de Schopenhauer, etc. Et elle pense que c'est elle qui a raison, elle cherche toujours à s'échapper en pleine nuit, habillée en noir et en mini-jupe, et les médecins me disaient, vous ne pouvez pas la lâcher, elle se tuera, elle passera sous les voitures, faut être avec elle. Et là, elle va partir le mois prochain dans son nouvel appartement. D'autres médecins, comme Conseil, m'ont dit, qui était mon médecin aussi à moi après, il faut savoir lâcher la main. Alors, qu'est-ce que... Et moi, je suis tombée en dépression sévère. Alors, voilà, docteur.
C'est un témoignage. Une dernière question, et puis on va arrêter.
Oui, bonsoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'étais très impressionnée par cette dame. Je suis bipolaire et j'ai été diagnostiquée en fait au mois de mai dernier. Si, je pense qu'on m'entend. J'ai été diagnostiquée en mai dernier, je suis bipolaire. Cependant, c'est une maladie que je sentais planer sur moi. Enfin, c'est un état que je sentais planer sur moi depuis toujours. Je pense qu'il m'a toujours été renvoyé dans le regard des autres. Je l'ai toujours senti et moi, j'ai toujours senti cet état. Cet état, mais pas comme une maladie, pas comme une froisserie, comme un état, comme une bizarrerie. Mais pas comme une monstruosité, comme une flamboyance, puisque c'est comme ça qu'on les appelait au XIXe siècle. Mais bon, c'est pas de ça dont je veux parler. Ça m'a jamais posé de problème, mais j'ai jamais eu de déni par rapport à ça, et pas plus depuis que je suis diagnostiquée. Mais c'est encore pas de ça dont je veux parler. J'en viens au fait. Depuis le mois de mai, je suis diagnostiquée BP2, bon, donc dans la moyenne. J'ai lu dans votre livre avec beaucoup de plaisir qu'effectivement les BP2 sont un petit peu les malheureux de la maladie, puisqu'ils sont un petit peu laissés pour compte, parce qu'on les considère comme la moyenne. Cependant, on souffre aussi beaucoup. Et on souffre beaucoup parce que on ne sait peut-être pas trop comment nous traiter. En tout cas, moi, depuis que je suis diagnostiquée, ben, on cherche avec mon psychiatre. Il y met beaucoup de bonne volonté, bien sûr. J'ai, je pense, un très bon psychiatre. Je ne remets pas du tout sa qualité en cause. Sauf que j'ai 38 ans aujourd'hui. J'ai vu des psychiatres depuis l'âge de 28 ans quand même, parce que depuis l'âge de 28 ans, on commençait à se demander, on commençait à se dire que ça n'allait pas très bien. J'ai vu beaucoup de charlatans, je dois le dire, parce que beaucoup de gens qui se sont passés à côté, en me faisant asseoir dans des fauteuils, en me faisant raconter papa, maman, pipi, popo, etc., alors que je demandais à être médiquée parce que je sentais qu'il y avait probablement un dérèglement chimique, que je sentais, et j'ai demandé à être médiquée, est-ce qu'on m'a refusé? Et ça, j'en souffre beaucoup encore aujourd'hui en le racontant. Et aujourd'hui, je me sens entamée. Et quand je dis entamée, c'est entamée chimiquement, c'est-à-dire j'ai l'impression que la chimie de mon cerveau est entamée. Mais c'est une réalité physiologique, enfin, je le ressens comme tel en tout cas. Et je me demande à quel point elle est réelle, et je me demande à quel point le cerveau est dégradé. Et je me demande jusqu'où ça peut aller. Et je me demande jusqu'à quel point le gâtisme me guette. Voilà la question, en fait. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que c'est une inquiétude qui n'est pas fondée? C'est ma question. Voilà.
Je vais vous rassurer sur un point, c'est-à-dire que quand on est maniaco-dépressif, bipolaire 1, bipolaire 2, il y a un dysfonctionnement, bien sûr, au niveau du système nerveux, mais c'est fonctionnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas lésionnel, et il n'y a pas d'évolution vers un état, on ne perd pas ses capacités. Il est certain que quand on est en phase dépressive, eh bien, on a ce sentiment de perturbation de la concentration, de l'attention, de la mémorisation, avec ce sentiment de perte de ses moyens. On a un vécu, on se sent très diminué. Mais c'est la dépression qui conduit à cette perception, et c'est l'existence de symptômes résiduels. Il n'y a pas de perturbation.
Excusez-moi, je vais juste ajouter une chose, je ne sais pas si on m'entend, mais la fatigue est de plus en plus grande, le ressort pour sortir est de plus en plus faible.
C'est quelque chose qui est assez caractéristique. Alors, là, on a... Là encore, dites-vous bien qu'on a tous les jours des nouvelles molécules, on a des nouvelles stratégies, il y a des médicaments nouveaux qui permettent d'être plus performant, plus efficace, que l'utilisation à long cours permet d'éviter ces descentes, que j'ai beaucoup insisté sur le Lamictal la dernière fois, et ça c'est des thérapeutiques, je dirais, nouvelles qui permettent d'agir sans altérer les fonctions cognitives, et ça c'est un point qui est très important. Oui, c'est un thymorégulateur, mais qui agit par le bas et qui agit surtout sur la composante dépressive. Alors, bon, aujourd'hui, c'était un sujet quand même très, très vaste. On n'a bien sûr pas pu aborder tous les aspects psychologiques de cette maladie. Je voudrais conclure en quelques mots, mais en parlant cette fois-ci de moi, et de le faire de manière la plus honnête possible, à savoir que quand on est amené à suivre des maniaco-dépressifs depuis, ça fait plus de 20 ans que je suis des maniaco-dépressifs, eh bien, ça modifie notre perception des choses. C'est-à-dire que le fait de pouvoir rencontrer des gens avec une telle richesse, avec un tel fonctionnement, avec une telle affectivité, avec une telle sensibilité, fait que on trouve les autres personnes fades, insipides. Et c'est vrai qu'on a un vécu très particulier, et on a parfois le sentiment que les gens normaux n'ont non seulement rien d'exceptionnel, mais pas beaucoup d'intérêt. Et on a cette débarque des références qui deviennent différentes de celles des autres. Alors vous allez me dire que tous les psychiatres sont pareils parce qu'ils sont un petit peu tordus, et indépendamment du fait qu'ils sont intelligents, ils ont toujours un petit peu loufoque. Mais je pense que quand on est amené à fréquenter des maniaco-dépressifs, c'est pas on fréquente pas des malades mentaux, on fréquente pas des schizophrènes, on fréquente pas des gens qui sont à l'ouest ou de notre côté de la planète, c'est des personnes qui nous apportent énormément. Et je voulais terminer cela en précisant ce vécu qui fait que, eh bien, on est quasiment amoureux de tous ces patients, on les apprécie, on a une réelle amitié pour eux. Alors il est certain qu'il y en a pour lesquels il y a plus d'amitié que pour d'autres, mais ça dépend des personnes et de la sensibilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose où on a cette implication, et parfois ça rend plus difficile d'ailleurs la prise en charge, mais c'est quelque chose qui est très fort. Et j'en discute souvent avec d'autres personnes qui s'intéressent et qui prennent en charge des maniaco-dépressifs et qui ont exactement le même ressenti. Et je prends toujours l'exemple de Louis Bertagna, qui est quelqu'un de mythique maintenant, quand j'en parle ici, qui est capable d'aller faire 200 km pour aller rechercher un patient qui n'allait pas bien. Et des personnes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je voulais dire ces quelques mots, et puis je vous remercie encore de votre attention.